Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 22 avril 2020. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. En RDC, au moins 14 morts dans des affrontements entre les forces de sécurité et des adeptes de la secte Bundudi à Congo. Coronavirus, les experts alertent sur le manque d'oxygène en Afrique, élément crucial pour sauver des vies. L'Afrique du Sud va déployer 73 000 soldats supplémentaires jusqu'au 26 juin pour faire respecter le confinement. Le Covid-19 a fait près de 178 000 morts dans le monde. L'Iran devra rendre des comptes pour le lancement d'un satellite militaire, a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, au moins 14 personnes ont été tuées et 3 blessées dans des affrontements entre les forces de sécurité et des rebelles, près d'une route vitale pour l'approvisionnement de Kinshasa. Selon les autorités, ces affrontements ont été provoqués par des adeptes de la secte Bundudi à Congo, à Songololo, le long de la route nationale 1 entre Kinshasa et le port de Matadi. L'émissaire de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Huangxia, a souligné l'importance d'avoir des scrutins présidentiels crédibles au Burundi et en Centrafrique. Lors d'une visioconférence du Conseil de sécurité, il a appelé tous les acteurs à garantir des processus électoraux pacifiques et inclusifs. La présidentielle au Burundi est prévue le 20 mai et celle en Centrafrique le 27 décembre. La pandémie de coronavirus a fait près de 1200 morts en Afrique sur près de 25 000 cas confirmés. Les experts alertent sur le manque d'oxygène, élément crucial pour sauver des vies. Éric Manirakiza.
Les experts craignent que la tension excessive sur les respirateurs ne masque un besoin encore plus criant et prioritaire pour les systèmes de santé les plus vulnérables, l'oxygène médical, composante clé des soins intensifs. Le coronavirus attaque les poumons, causant des formes aiguës de détresse respiratoire et entraînant une baisse dangereuse du niveau d'oxygène dans le sang. Selon un rapport publié en février sur plusieurs milliers de cas en Chine, près de 20% des malades du Covid-19 ont eu besoin d'oxygène. Mais des études montraient que moins de la moitié des établissements hospitaliers d'Afrique disposent d'oxygène à tout moment. Dans un continent où les traditions restent vives, les populations se ruent sur les remèdes des anciens, inhaler la vapeur d'un mélange d'écorce et de manguier, des feuilles de papayer, du gingembre ou l'usage des cristaux de menthe. Même les chefs d'État s'en mêlent. Celui de Madagascar, Andry Rajoelina, a vanté les qualités de guérison d'une tisane à base d'artémisia, une plante à l'efficacité scientifiquement prouvée contre le paludisme.
L'approche du Ramadan fait craindre une flambée de violence au Niger où des émeutes ont éclaté dans plusieurs villes contre le couvre-feu et l'interdiction des prières collectives. Les troubles ont commencé le mois dernier dans le centre du pays dès l'annonce des mesures de lutte contre le coronavirus avant de s'étendre à la capitale depuis près d'une semaine. Les forces de l'ordre ont interpellé près de 300 personnes ces derniers jours. Human Rights Watch a exhorté les autorités kényanes à enquêter sur des cas de violences policières qui ont fait au moins 6 morts pendant le couvre-feu. Un vendeur est décédé après avoir été touché par une cartouche de gaz lacrymogène et 4 hommes ont été battus à mort selon l'ONG, qui cite aussi le cas d'un garçon abattu sur son balcon à Nairobi le 31 mars alors que la police forçait des personnes en contrebas à rentrer chez elles. Dans une lettre au Parlement, le président Cyril Ramaphosa a annoncé le déploiement de plus de 73 000 membres supplémentaires des forces de défense jusqu'au 26 juin pour faire respecter le confinement. La ministre sud-africaine des communications, ayant participé à une fête chez des amis en plein confinement, a plaidé coupable et payé une amende de 1000 randes. Stella Ndabeni Abrahams a été suspendue 2 mois. Elle apparaissait sur Instagram en train de déjeuner avec d'autres personnes au domicile d'un ex-ministre. Par ailleurs, des dizaines de fonctionnaires, dont 89 officiers de police, ont été arrêtés pour avoir enfreint la réglementation sur le coronavirus. Beaucoup d'entre eux pour avoir vendu des boissons alcoolisées confisquées.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde au aujourd'hui.
Le coronavirus a fait près de 178 000 morts dans le monde. Plus de 2 570 000 cas d'infection ont été diagnostiqués. Un premier cas a été enregistré dans un camp de réfugiés palestiniens dans l'est du Liban. Jacques Aristide.
Il s'agit d'une femme qui vit dans le camp de Wavel, qui a été bouclée par les factions palestiniennes en charge de la sécurité. Elles ont interdit les entrées et les sorties en coordination avec les forces de l'ordre libanaises. La patiente a été transférée à l'hôpital public Rafik Hariri de Beyrouth. Des tests de dépistage ont été menés ce mercredi parmi la population locale placée en confinement. Pour sa part, l'ONG Human Rights Watch appelle le gouvernement grec à prendre immédiatement des mesures de décongestion des camps des migrants surpeuplés sur les îles en mer Égée afin d'éviter une crise de santé publique et d'arrêter la propagation du virus. L'ONG américaine affirme que les critères minimums de protection contre le Covid-19 ne sont pas respectés dans ces camps où vivent environ 35 000 migrants et demandeurs d'asile. Jusqu'à présent, aucun cas n'a été détecté dans ces camps d'après les autorités grecques. De son côté, l'Iran annonce ce mercredi 94 décès supplémentaires. Téhéran souligne tout toutefois, le maintien d'une tendance à la baisse du nombre de contaminations dans le pays. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec plus de 45 000 décès pour environ 825 000 cas.
Par ailleurs, le nouveau chef de l'opposition travailliste britannique, Keir Starmer, a reproché au gouvernement de Boris Johnson sa lenteur dans la gestion de la pandémie de coronavirus. Le centriste europhile élu le 4 avril à la tête du Labour a mené sa première séance hebdomadaire de questions au gouvernement. Le président américain Donald Trump signe ce mercredi un décret qui suspend temporairement la délivrance de cartes vertes afin de protéger les emplois américains en pleine crise liée au coronavirus. Le point avec Abdourahmane Dia.
Cette suspension sera d'une durée initiale de 60 jours. Elle ne s'appliquera pas aux visas de travail temporaires, mais aux seules cartes vertes qui offrent le statut de résident permanent. Hier mardi, Donald Trump a mis en avant la situation de l'emploi aux États-Unis pour justifier sa décision. Il serait injuste que les Américains soient remplacés par une main-d'œuvre venue de l'étranger, a déclaré Donald Trump. Nous devons donner la priorité aux travailleurs américains, a-t-il martelé. 22 millions d'Américains ont perdu leur emploi en un mois à cause des mesures prises par les gouverneurs obligeant les gens à rester à la maison. Ces critiques y voient une manière de détourner l'attention sur la polémique concernant sa gestion de la pandémie du Covid-19 et de remettre sur la sellette la question de l'immigration, un sujet très important pour sa base à 6 mois des élections.
L'Iran devra rendre des comptes pour le lancement d'un satellite militaire qui est contraire aux résolutions des Nations Unies, a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, rappelant que les États-Unis considèrent les gardiens de la révolution comme une organisation terroriste. Par ailleurs, Donald Trump a annoncé avoir donné l'ordre de détruire toute embarcation iranienne qui s'approcherait agressivement de navires américains dans le Golfe. « J'ai donné l'ordre à l'US Navy d'abattre et de détruire toute embarcation iranienne qui harcèlerait nos navires en mer », a tweeté le président américain. En réponse, Téhéran reproche aux États-Unis d'avoir empêché le passage d'un navire iranien. À l'occasion de la 50e journée de la Terre, les Nations Unies appellent à lutter contre le réchauffement climatique avec la même détermination que contre la pandémie de Covid-19. Claire Morin-Gibourg.
Si nous ne luttons pas contre le changement climatique, le bien-être humain, les écosystèmes et les économies pourraient être menacés pendant des siècles, a averti l'ONU aujourd'hui. Les vagues de chaleur ont été meurtrières depuis 2015, mettant à l'arrêt des pans entiers des économies. La pandémie du coronavirus devrait entraîner une réduction de 6% des émissions de gaz à effet de serre. Mais les crises économiques précédentes ont souvent été suivies par des émissions de carbone bien plus importantes. L'ONU réclame que des plans de relance post-pandémie favorisant une croissance plus verte soient mis en place dès à présent. 30% de la population mondiale vit dans des régions sujettes à des canicules meurtrières au moins 20 jours par an. Autre problème issu du réchauffement climatique, les fortes pluies et les inondations favorisent les épidémies, notamment de choléra, qui menacent 1,3 milliard de personnes.
Les jeunes devront redescendre dans la rue pour sauver une planète polluée et pillée, a jugé pour sa part le pape François à l'occasion de la 50e journée mondiale de la Terre. Nous n'avons pas d'avenir si nous détruisons l'environnement qui nous soutient, a-t-il déclaré. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans La Minute Éco, qui vous est présentée ce soir par Ekia Badou.
En Afrique, les compagnies aériennes pourraient perdre 6 milliards de dollars de revenus passagers en 2020 à cause du coronavirus comparé à l'année 2019 selon l'Association internationale du transport aérien. Ethiopian Airlines, joyau de l'économie éthiopienne et source vitale de devises, a déjà annoncé avoir perdu 550 millions de dollars de revenus depuis janvier. Son PDG, Tewolde Gebremariam, affirmait en mars que la pandémie de coronavirus n'était qu'un problème temporaire, reconnaît maintenant que la première compagnie aérienne africaine lutte pour sa survie. Pour parer au pire, Ethiopian cherche à augmenter son activité de fret et à retarder les paiements dus pour la location d'avions. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé mardi un énorme plan de soutien économique et social d'un montant de 24,4 milliards d'euros pour soutenir les entreprises et les personnes les plus vulnérables. L'impact du coronavirus nécessite un budget extraordinaire, a-t-il estimé, soulignant l'ampleur de ce programme d'urgence pour la première puissance industrielle du continent. Le président américain Donald Trump a signé aujourd'hui un décret limitant temporairement l'immigration afin de protéger les emplois américains. « Je signerai aujourd'hui le décret interdisant l'immigration dans notre pays », a tweeté le président américain, inquiet de l'inscription au chômage de 22 millions de personnes en quelques semaines.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La saison de football aux Pays-Bas s'est effectivement terminée hier, mardi 21 avril, après que le gouvernement a prolongé de 3 mois l'interdiction des grands événements publics. La Fédération néerlandaise de football a alors déclaré qu'elle ne poursuivrait pas ses efforts pour tenter de terminer la campagne 2019-2020, mais qu'elle consulterait d'abord l'UEFA. L'instance européenne de football a poussé les pays membres à essayer de terminer leur saison. Le premier ministre néerlandais a interdit des événements, notamment des sports professionnels et des festivals de musique, jusqu'au 1er septembre pour empêcher une résurgence des infections à coronavirus. Auparavant, la Belgique a annulé sa saison, mais s'est heurtée aux critiques de l'UEFA. En Angleterre, le défenseur international ivoirien de Tottenham, Serge Aurier, et son coéquipier français Moussa Sissoko se sont excusés pour ne pas avoir respecté les règles de distanciation sociale. En tant que footballeur professionnel, nous avons la responsabilité d'être exemplaires, particulièrement dans cette période incertaine que le monde affronte, ont déclaré les deux joueurs s'engageant à faire un don financier au service de santé britannique. Les Spurs ont pu constater l'indiscipline de leurs joueurs grâce à une vidéo postée par Aurier sur son compte Instagram mardi avant de l'effacer. On y voyait le joueur de 27 ans, masque sur le visage, faisant des sprints courts, puis assis à côté de Sissoko, sans respecter de distance de sécurité. Toujours en Angleterre, l'ONG Amnesty International a averti la Premier League qui doit étudier prochainement un projet de reprise de Newcastle par des fonds saoudiens. Selon la presse, un consortium saoudien dans lequel est impliqué le prince héritier Mohamed Ben Salman a versé une avance non remboursable de 19,5 millions d'euros au propriétaire du club anglais Mike Ashley dans le cadre d'une offre de rachat de 345 millions d'euros. Mais Kate Allen, directrice britannique de l'ONG qui lutte pour le respect des droits de l'homme, a écrit au président de la Premier League, Richard Masters, pour l'avertir du risque en termes d'image que court son institution. Athlétisme, pour finir, le marathon de Berlin n'aura pas lieu comme prévu les 26 et 27 septembre à cause de l'interdiction du rassemblement dans la capitale allemande liée au coronavirus. Nous avons appris que tous les événements impliquant plus de 5000 personnes seront interdits jusqu'au 24 octobre, expliquent les organisateurs dans un communiqué, sans donner à ce stade de nouvelles dates. Plusieurs dizaines de milliers de personnes participent chaque année à cette course. En 2019, l'Éthiopien Kenenisa Bekele a gagné, échouant à 2 secondes du record du monde.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
aujourd'hui VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition, maintenant les dossiers du jour. Au Cameroun, la présidence a reconnu l'implication de militaires dans le meurtre d'une dizaine de civils en zone anglophone. Les résultats de l'enquête instruite par le président Paul Biya sur les incidents du 14 février dans le village de Toumbou ont été publiés. Des représentations diplomatiques ont réagi, dont l'ambassade des États-Unis, ainsi que des partis politiques et organisations de défense des droits humains. Un reportage de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap.
Ce résultat est une victoire pour notre mouvement, pour toutes les défenseurs de droits de l'homme et tous les partis politiques, pour toutes les femmes et tous les hommes qui se sont mis en noir le 8 mars dernier pour revendiquer justice.
Edith Kawala est membre de l'opposition et dirige un mouvement à caractère politique dénommé Stand Up for Cameroon. Elle avait appelé de vive voix le gouvernement à rétablir la vérité sur le massacre des civils dans le quartier Garbo, au sud-ouest, en zone anglophone. Après les résultats de l'enquête publiée par la présidence de la République, Edith Kawala soulève des zones d'ombre.
Il est certain, ces soldats sont coupables d'avoir tiré, d'avoir brûlé, mais une armée n'est qu'un instrument d'un gouvernement. Une armée ne décide pas de degré de force qu'elle utilise sur le terrain seule. Ces décisions sont prises par des politiques et nous voyons dans cette décision que les politiques se sont épargnés.
Le 16 février dernier, le Centre des droits de l'homme pour la démocratie en Afrique avait dans un rapport accusé les militaires camerounais d'avoir commis des exactions sur les civils à Garbo. L'ONG avait été menacée de poursuites judiciaires par les autorités. L'avocat Agbo Bala Kongo est le fondateur du Centre des droits de l'homme pour la démocratie en Afrique.
Les recommandations de la commission sont très satisfaisantes pour moi. Je suis très content. C'est un grand jour pour les victimes de ces atrocités. Ça prouve qu'ils sont morts dans la probité. C'est un grand jour parce que justice leur sera rendue. J'exhorte l'État de rassurer que le procès sera équitable et ouvert au public. Nous voulons que les représentants des victimes participent à ce procès, ça va les aider durant ce procès. Le gouvernement devra leur fournir les moyens financiers pour qu'ils se déplacent à Yaoundé.
L'ambassade des États-Unis au Cameroun a mentionné sur son compte Twitter, je cite, « Nous nous réjouissons de la démarche de transparence à propos de l'attaque du 14 février à Garbo avec la publication du rapport d'enquête. » Nous accueillons la décision de demander des comptes aux personnes soupçonnées d'avoir mené cette action et d'avoir tenté de la dissimuler. Fin de citation. Trois membres du gouvernement, les ministres de la Communication, de la Défense et de l'administration territoriale, avaient nié l'implication de l'armée dans la mort des femmes et enfants à Garbo. Des sorties médiatiques que regrette ce jeune employé du secteur privé à Yaoundé.
Est-ce que ceux qui nous parlent souvent sous mandat de représenter l'autorité centrale qui est la présidence de la République, est-ce qu'ils sont souvent véritablement envoyés? Un manque d'organisation et qui véritablement ne crédibilise plus à la fin la communication gouvernementale.
Mais pour les partisans du président Paul Biya, l'essentiel est sauf. Les décisions du chef de l'État renforcent l'état de droit au Cameroun.
Et tire un coup de chapeau au chef de l'État qui a donc permis à ce que les Camerounais connaissent la vérité de cette affaire. Que ce soit l'armée, que ce soit les civils, nous sommes tous appelés à respecter la loi. Si on était dans un État dictatorial, je ne sais pas si on aurait demandé à ce que ces corps soient exhumés pour qu'ils soient également enterrés dans un autre endroit avec plus de dignité.
Le président Biya a ordonné notamment l'arrestation de trois éléments des forces de défense ainsi que de 10 des miliciens non encore identifiés. Les trois militaires déjà à la disposition du tribunal militaire de Yaoundé sont accusés d'avoir incendié les maisons des civils à Garbo pour tenter de dissimuler la mort de trois femmes et 10 enfants tombés sous leurs balles. Emmanuel Juntap, Yaoundé, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2. Un jeune Burkinabé a décidé de fabriquer un respirateur artificiel, un dispositif médical qui doit permettre de faire face aux cas les plus graves de la pandémie de Covid-19, sachant que le pays dispose de très peu de respirateurs. L'hôpital de référence Tengandongo, qui traite les cas de coronavirus, en a seulement 7. Notre correspondant Lamine Traoré a rencontré Issa Kwaku à Ouagadougou.
Dans son atelier au quartier Tanguin de Ouagadougou, nous rencontrons Issa Kwaku, dit Providence. Il soude des plaques métalliques. Ce Burkinabé de 40 ans est ingénieur, enseignant de technologie et directeur fondateur de BRTT, le bureau de recherche et de transfert de technologie, qui fait dans la recherche et le développement. Il est à l'origine de l'invention du respirateur Made in Burkina.
Ce qui m'a motivé, c'est surtout le manque de respirateurs sur le marché international.
Issa Kwaku.
Parce qu'on a vu même aux États-Unis, dans d'autres pays, il manquait de respirateurs. Aux États-Unis, Donald Trump était obligé de réquisitionner des General Motors ou d'autres sociétés pour qu'ils fabriquent des respirateurs pour les États-Unis. Donc ici, si nous allons entendre qu'on vient nous fabriquer des respirateurs, bon, on va tous mourir. Donc c'est ça qui m'a motivé en fait à mettre au point des respirateurs ici au Burkina.
Et c'est avec fierté que l'inventeur présente son respirateur.
Ici, il s'agit d'un respirateur qui permet l'introduction de médicaments. Non seulement il aère le poumon, mais il y a possibilité aussi de mettre des médicaments qu'il mélange avec l'air et qu'il introduit dans les voies respiratoires et dans le poumon, ainsi de pouvoir faire des traitements.
Les respirateurs sont des appareils qui aident à ventiler les patients en apportant de l'oxygène en cas de défaillance de la mécanique respiratoire. Dans la lutte contre le coronavirus, Issa Kwaku estime que ces respirateurs sont de qualité et il y a la possibilité d'améliorer.
Je suis dans un groupe où il y a des médecins, il y a des cardiologues, il y a des réanimateurs, il y a tout un corps de personnes médicales qui sont à l'intérieur, qui vont certifier, qui vont travailler, qui vont tester ces respirateurs-là pour que ça soit dans les normes internationales.
C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il est vraiment très, 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 très réfléchi en matière d'innovation et de créativité.
Silver Salga est inventeur et écrivain, promoteur de la société Salgatech, proche de notre Kwaku.
Nous sommes actuellement dans un protectionnisme mondial avec cette pandémie planétaire. Il y a tous les pays courent après les respirateurs. Ici, on a donc des initiatives endogènes qui peuvent nous permettre de fabriquer sur place. Il faut sauter dessus, il ne faut pas hésiter.
Issa Kwaku lance un appel aux autorités, non seulement burkinabè, mais aussi africaines, à faire confiance à l'expertise locale.
Dans nos pays, le vrai problème que nous avons est que nos autorités ne reconnaissent pas les capacités technologiques qui sont à l'intérieur de leur pays. Toujours, ils vont chercher ailleurs, alors que des fois, ce qu'ils vont chercher ailleurs n'est pas mieux que ce qui est à côté d'eux.
Issa Kwaku est entre des coups de fil et des rencontres en quête de personnes de bonne volonté depuis qu'il a pu mettre sur pied ses respirateurs. Il pense que ses respirateurs sont accessibles. La fabrication d'un respirateur lui coûte 500 000 francs CFA. Et pourtant, sur le marché international, des respirateurs sont à au moins 5 millions de francs CFA. Le Burkina compte très peu de respirateurs. Il n'y en a que 7 à Tengango, l'un des plus grands centres de santé qui s'occupe actuellement des malades du Covid-19. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, nous nous penchons sur les médias et l'accès à l'information durant cette pandémie du Covid-19. Au moment où la majorité de la population est confinée, Internet devient plus que jamais essentiel dans le travail des journalistes et pour un public avide d'informations crédibles en cette période de crise sanitaire. Comment les médias s'organisent-ils pour continuer à informer le public? Comment aider les populations à identifier les fake news? Les gouvernements doivent-ils rendre Internet plus accessible, surtout en cette période de crise? Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi 23 avril à 19h, au temps universel sur VOA.
La musique peut servir à faire passer des messages de sensibilisation sur les dangers du Covid-19. Au Gabon, un chanteur de rue à Libreville, connu sous le nom de Jimmy Anderson, s'est donné cette mission à l'instar de milliers d'autres artistes dans le monde. Notre correspondant Ismaël Obiangnze est allé à sa rencontre.
Abîmé par la vie et ses excès, Jimmy Anderson tient encore bon pour gratter une guitare. Après 30 ans à accompagner des orchestres de renommée, mais aussi à chanter dans les cabarets et bars dancing de Libreville pour quelques pièces d'argent, Moussavou Kambila, de son vrai nom à l'état civil, donne de la voix pour combattre l'épidémie à coronavirus qui secoue désormais la capitale gabonaise.
Les papas ne travaillent plus. Quitte
nostalgique de Johnny Hallyday à ses débuts dans le milieu artistique, Jimmy Anderson a toujours voulu ressembler à la rockstar internationale. Il a le même timbre, le même grain, le même vibrato que son idole.
D'où tu viens ? Éloigne-toi de nous ! On ne veut plus te voir, te revoir !
Le texte sur le coronavirus lui a pris quelques semaines de travail. D'ordinaire, les chansons du Johnny Gabonais caricaturent le quotidien difficile des quartiers populaires de Libreville. Le contexte de crise sanitaire mondiale lui offre le prétexte d'une nouvelle inspiration.
Le mode de vie a changé. Quand les enfants ne partent plus à l'école, c'est déjà un trou pour les parents. Et quand les papas ne partent plus au travail, ça signifie que nous n'avons plus d'espoir. Et quand les mamans ont peur du coronavirus, ça signifie que on n'a plus rien à dire, c'est une vie misérable. L'artiste qui m'a inspiré, Johnny Hallyday. Et je dis, reste toujours que, malgré que mon artiste est parti, je serai toujours là pour chanter comme Johnny Hallyday.
La musique de Moussavou Kambila, alias Jimmy Anderson, n'a jamais été gravée. Il rêve d'être produit sur ce coup et d'une reconnaissance au bout de tant d'années d'errance musicale. À 60 ans, la musique, c'est presque toute la vie de Jimmy Anderson. Libreville, Ismaël Obionzi, VOA Afrique.
Alors que le monde combat la pandémie de Covid-19, certains se demandent si les mesures de restriction pour contenir le virus ne conduisent pas à l'amélioration de la qualité de l'air. D'autres estiment qu'il existe une corrélation entre le confinement et les niveaux de pollution sur la planète. Un reportage de Mariam Diallo, le récit est de Blanche Sanou.
Simonetta Celli de l'Agence spatiale européenne affirme que la Chine a connu une baisse de 20 à 30% du dioxyde d'azote entre la mi-décembre et la mi-mars. C'était certainement dû au fait que dans la région du Hubei en Chine, toutes les activités ont été considérablement réduites en raison du confinement. Béatrice Cardenas nous explique comment le dioxyde d'azote affecte l'air. Lorsque le dioxyde d'azote est dans l'atmosphère, il n'a pas un impact uniquement sur l'environnement et la santé des gens. C'est aussi un polluant clé car une fois dans l'atmosphère, il peut interagir avec d'autres du même genre et produire des effets plus toxiques. Toute cette pollution détruit la santé de la population. L'exposition à la pollution atmosphérique vous rend plus vulnérable aux infections comme ce virus ou autres bactéries. L'analyse de Greenpeace montre également que les émissions de pollution à Pékin et ses environs ont chuté. Par rapport aux années précédentes, les rues et les monuments ne sont plus couverts de brouillard, comme nous l'explique Lin Liu. En fait, il y a beaucoup de raisons derrière l'amélioration de la qualité globale de l'air, mais il faut retenir deux facteurs principaux. La première est que les usines ont été fermées pendant l'épidémie. L'autre est le changement de style de vie des gens, en particulier la réduction du trafic. Li Chan, un habitant de Pékin, considère cela comme un avantage potentiel pour la santé. On dirait que l'air est beaucoup moins pollué qu'auparavant. Cela améliore également l'humeur des gens. En Europe, des villes comme Madrid, Bruxelles, Paris, Milan et Francfort ont également montré une réduction des niveaux moyens de dioxyde d'azote selon les images satellites Sentinel 5. En Amérique, Los Angeles, une ville avec l'un des pires problèmes de brume du pays, connaît une troisième semaine consécutive d'air pur. Tout cela amène certains à se demander si les mesures de confinement contribuent à réduire les niveaux de pollution. Les scientifiques californiens comme Philip Fine examinent les données mais affirment qu'ils ne sont pas parvenus à une conclusion. Les activités humaines qui causent des émissions ont diminué, il a plu tous les deux ou trois jours. Et dans ces conditions, ce sont les jours où nous avons généralement une très bonne qualité de l'air. Pour Cardenas, si l'amélioration de la qualité de l'air est liée à la diminution de l'activité humaine ou des conditions météorologiques, il y a alors des leçons à tirer lorsque tout cela sera terminé.
c'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.
Avec vous, Henri François.